Radio Okapi.
La prévalence du VIH-Sida atteint 1,7% dans le Bas-Ouélé. Malgré une légère baisse, la province reste parmi les 10 plus touchés du pays. Le PNMLS alerte sur une situation préoccupante liée notamment aux nombreux foyers miniers et à la mobilité transfrontalière. En Ituri, l'effondrement du pont Nizi a coupé le trafic entre la zone minière et Bounia, une rupture qui entraîne déjà une flambée des prix et inquiète élus et acteurs locaux qui appellent à une réhabilitation urgente. Notre invité est le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, revient sur le déplacement du président Tshisekedi à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda et appelle à l'unité face aux menaces persistant dans l'est du pays. Bonjour à tous. La prévalence du VIH-Sida dans la province du Bas-Ouélé est évaluée actuellement à 1,7%. Bien que légèrement en baisse, cette entité figure parmi les 10 provinces dont le taux de prévalence demeure supérieur à 1% en RDC. C'est ce que révèle le bureau provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida dans le Bas-Ouélé. Celui-ci considère la situation préoccupante en raison de certains facteurs, notamment l'existence de plus de 150 foyers miniers d'or et de diamants et la présence des professionnels de sexe. Le partage des frontières avec le Haut-Ouélé, dont la prévalence est estimée à 7,1%, la République centrafricaine 3,8%, ainsi que le Soudan du Sud 2,6%, exacerbe davantage le risque de contamination. En vue de lutter contre cette pandémie, le secrétaire exécutif provincial du PNMLS dans le Bas-Ouélé formule quelques recommandations, notamment au gouvernement central. Fabrice Denangowé est ici dans ses propos recueillis par Jacques Nkongolé.
Au gouvernement central d'orienter les partenaires pour accompagner les activités de sensibilisation, de dépistage des adolescents et surtout la prise en charge des adolescents et jeunes filles enceintes VIH positives. Implanter les laboratoires pour les personnes vivant avec le VIH et chercher à réorganiser les structures de l'Union congolaise des personnes vivant avec le VIH SIDA ICO+. Et enfin, chercher à apporter un appui nutritionnel au PVVH à travers la division des affaires sociales et actions humanitaires. Notre vision pour la Journée mondiale du SIDA 2025 est de garantir un accès équitable, durable et de qualité aux services de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien pour toutes les populations sans discrimination afin d'éliminer le SIDA comme menace de santé publique en RDC d'ici 2030.
La journée mondiale contre le VIH-Sida, c'est ce 1er décembre. En Ituri, des centaines de détenus de la prison centrale de Bounia ont été sensibilisés à cette occasion, ce lundi, à la prévention contre le VIH-Sida. Sensibilisation suivie du dépistage volontaire du VIH-Sida, deux activités organisées par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO en partenariat avec la police de la MONUSCO, UNPOL et les contingents bangladais. L'objectif et de garantir le droit à la santé de ces vulnérables pour qu'ils connaissent leur état sérologique afin de se protéger et protéger les autres contre cette maladie. Martial Kiza Biamungo, reportage.
33, 34. C'est par cet appel chiffré que des centaines de détenus de la prison centrale de Bounia, rangés en file indienne, défilent tour à tour, chacun avec un bout de papier à main, devant deux médecins de la police sénégalaise de la MONUSCO. Ici, ces passionnaires se soumettent au prélèvement du sang volontairement, puis se dirigent vers une deuxième équipe de médecins pour les résultats. Guillaume Kassereka, l'un des bénéficiaires, quitte les locales de soins, sourire sourire aux lèvres. Son résultat négatif. Pour lui, comme tous les autres détenus volontaires, ce dépistage met fin aux doutes qu'il avait sur son état sérologique. Il décide désormais de respecter toutes les mesures de prévention contre les VIH-SIDA. Selon les organisateurs de cette activité, à cause de la promiscuité des détenus à la prison centrale de Bounia, les risques de contamination au VIH-SIDA est élevé. Les cas positifs seront directement pris en charge et mis sous traitement des antirétroviraux. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, des milliers de personnes déplacées continuent de subir des traumatismes liés à des actes d'exploitation et d'abus sexuels dont elles ont été victimes. Ce constat a été présenté ce lundi à Goma par l'organisation Walk Way, qui signifie la voie du salut en français. En partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'organisation a lancé une formation de 3 jours à l'intention d'une 50aine d'acteurs humanitaire. Selon son directeur exécutif, cette initiative vise à renforcer la réponse face aux risques d'abus et d'exploitation sexuelle perpétrés par certains agents humanitaires, lesquels affectent gravement les personnes déplacées et celles retournées. Écoutons à ce sujet les propos de Bagoulala.
Nous sommes partis du constat des crises humanitaires où il y a eu des mouvements de déplacés du territoire de Rutshuru, Masisi, mais aussi une partie du territoire du Sud Kivu au niveau de Calais vers la ville de Goma. Alors toutes ces personnes ont été obligées à retourner dans leur milieu d'origine et qui continuent à bénéficier de certaines aides des acteurs humanitaires. Et il y a des humanitaires qui font des dérapages et qui conditionnent les aides par rapport au sexe. Et ça, c'est déjà les choses qui entrave la communauté est frustrée et les personnes y sont contraintes à le faire par rapport à leur vulnérabilité, ce qui pousse à certaines conséquences sur la santé mentale de ces populations-là. Et c'est ce constat qui nous a poussé à identifier certaines organisations humanitaires qui participent dans les réseaux de prévention des exploitations et abus sexuels. Nous sommes en train de les former et les orienter comment prendre en charge les bénéficiaires sans autant conditionner les aides.
Notez que la formation qui se clôture mercredi porte sur l'impact de l'exploitation et des abus sexuels sur la santé mentale des survivants en contexte de crise humanitaire. Rendons-nous en Ituri, où le trafic est interrompu entre plusieurs entités de la zone dite minière et la ville de Bounia. En cause, l'affaissement du pont Nizi, survenu le week-end dernier au passage d'un camion chargé de marchandises. Cette situation perturbe déjà profondément les quotidiens des populations qui constatent une hausse des prix de nombreux produits sur les marchés, témoignent plusieurs riverains. Le point avec Jean-Claude Logui.
Selon Jean-Pierre Bikili Sende, député provincial élu du territoire de Djougou, l'axe Iga-Barrière-Mongualou constitue la principale voie d'acheminement des produits de première nécessité. L'effondrement du pont provoque déjà une flambée des prix, certains articles devenant rares sur le marché.
À titre d'exemple, le carburant 20 litres qui coûtait il n'y a pas longtemps dans les 60-70 000 francs congolais, actuellement c'est dans les 120 000 francs congolais. Et le sac de riz de 25 kilos qui coûtait dans les 75 000, actuellement c'est dans les 100 000, 110 000 francs congolais. Donc,
plusieurs acteurs de la société civile expriment également leurs inquiétudes, rappelant que cette zone reste sous la menace constante des groupes armés. Une préoccupation partagée par le chef de chefferie des Mambisa, Baoudjo Bandinga.
Donc, sur le plan sécuritaire, vraiment, les interventions comme telles des militaires directement, là, ça ne peut pas avoir lieu quand il y a, par exemple, du rangement. Souvent, on fait appel aux militaires, mais comme les poids coupés, ça risque de retarder les opérations militaires.
Tout en appelant à la réhabilitation urgente du pont Nizi, de nombreuses voix demandent aux autorités de remettre en état les routes secondaires afin d'assurer le ravitaillement de cette région en produits essentiels. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Une nouvelle ère fiscale s'ouvre ce lundi 1er décembre en République démocratique du Congo. Le gouvernement a lancé officiellement la facture normalisée, un dispositif censé lutter contre la fraude, mobiliser les recettes de l'État et mieux protéger les consommateurs. Concrètement, commerçants, entreprises et même certains prestataires de services devront désormais délivrer une facture normalisée conforme aux normes fiscales en vigueur. Alors, qu'est-ce que cela change dans la vie de tous les jours et à quoi ressemble cette facture normalisée? Élément de réponse avec Pauline Mousalia.
La facture normalisée est un document électronique sécurisé et standardisé imposé par l'administration fiscale et qui devra accompagner les transactions commerciales. Cette facture est émise à l'aide d'un dispositif électronique fiscal qui est directement relié à la Direction générale des impôts. Objectif affiché par le gouvernement, rendre les opérations économiques plus transparentes et mieux traquer les recettes fiscales dans un pays où une partie importante de l'activité économique se déroule encore dans l'informel. Cette facture normalisée comprend notamment l'identité du vendeur, l'identité du client, un numéro de facture unique, le produit ou le service vendu ainsi que le prix et les taxes à payer. Mais cette facture normalisée n'est pas seulement un outil pour l'État, elle concerne aussi directement les entreprises et les consommateurs. Pour les entreprises, notamment celles déjà formalisées, cela implique de mettre à jour leur système de facturation. Les logiciels de gestion et les procédures internes doivent s'adapter pour générer ces nouvelles factures conformes aux exigences de l'administration fiscale. Pour les consommateurs, la facture normalisée est surtout une preuve d'achat fiable qui facilite les réclamations ou sert de preuve en cas de litige, mais aussi elle peut faciliter certaines démarches fiscales lorsque la loi le prévoit.
Le mouvement citoyen lutte pour le changement, section Kasaï Central, a lancé samedi à Kananga une campagne dénommée Salongo, notre devoir citoyen. Cette campagne est continuelle et se déroule chaque matin de la semaine. Elle vise à sensibiliser la population sur la citoyenneté responsable et la lutte contre l'insalubrité sur la ville. Les détails dans ce reportage d'André Katendengala Mouloubi.
Avec des mégaphones, les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha section du Kasaï central, sensibilisent la population de la ville de Kananga sur la citoyenneté responsable. Pour cette première journée, ils sont d'abord passés au marché Kamaï où ils ont exécuté les travaux d'assainissement avant d'aller sur différentes rues de la ville pour sensibiliser ceux qui font le marché pirate à rejoindre différents marchés. D'après Ben Kapena, militant de la Lucha que nous avons interviewé, l'objectif est d'éveiller la conscience de la population sur la vraie citoyenneté et lutter contre l'insalubrité ainsi que le marché pirate.
Cette campagne marque une nouvelle étape dans la lutte contre l'insalubrité qui gagne du terrain dans la vie des Kananga. Nous pensons que les salons de mer l'unique voie durable pour combattre l'insalubrité et restaurer un environnement sain pour tous.
La campagne Salongo notre devoir citoyen de la Lucha vient en appui à l'opération Libérer les trottoirs lancée à Kananga par le gouverneur des provinces il y a une semaine et l'opération Ville propre de la mairie. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Au chapitre sécurité, le commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Sud Kivu, appelle les troupes sous son commandement à renforcer les liens civilo-militaires, gage essentiel pour remporter la victoire contre l'agression de la RDC. Par la même occasion, le colonel Kisembo Isingoma Benjamin présente sa compassion à la population de la ville de Kamituga, victime de la méconduite de quelques éléments des FARDC et des Wazalendo le mardi dernier dans le territoire de Mwenga. Jean Kassami, reporter.
Ces propos du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu ont été tenus lors d'une visite d'inspection des troupes engagées sur l'axe Chabunda-Nzibira mercredi passé. Le porte-parole FARDC du secteur opérationnel, le sous-lieutenant Meya Jérémy, revient sur le message clé adressé aux militaires FARDC basés à Mukonkwa et à Nyombe dans les territoires de Chabunda.
Il a instruit les commandants à bien prendre leurs hommes en main. Il demande de dénoncer au moment opportun tout militaire qui commet les actes contraires à la loi ainsi qu'au droit international humanitaire.
À propos des actes de vandalisme commis contre la population civile à Kamituga le 25 novembre par certains militaires et Wazalendo, les commandants secteurs assurent que ces actes ne resteront pas impunis. On écoute encore une fois le porte-parole.
Les enquêtes diligentées sont déjà en cours par les services habilités pour identifier les auteurs et acteurs en fait de réponse prendre celle devant la rigueur de la loi.
Jusqu'à présent, une grande partie du territoire de Shabunda est sous contrôle des FRDC soutenus par les Wazalendo. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
À Kinshasa, capitale congolaise, les mototaxis restent l'un des moyens de transport les plus rapides pour échapper aux embouteillages, mais de plus en plus, des témoignages de femmes et des jeunes filles victimes de harcèlement sur les mototaxis se multiplient. Entre gestes déplacés et paroles obscènes, certaines passagères disent vivre un véritable traumatisme. Enoch Ekatumbi s'est penché sur ce phénomène. Voici son reportage.
Les mototaxis prennent 2 clients au maximum. Les femmes occupent généralement la position du milieu, entre le conducteur et le copassager. Mais pour de nombreuses Kinoises, chaque trajet peut devenir un moment de tension et d'inquiétude. Une victime qui a requis l'anonymat.
Nous étions à deux avec un monsieur derrière. Le monsieur a commencé à me bousculer. Je lui ai dit, tu veux quoi? Mais il continuait. J'ai dit au motard, moi je ne supporte pas que soit je descends ou soit le monsieur puisse descendre. Quand il s'est arrêté, le monsieur est descendu. Il avait déjà même éjaculé.
Son histoire n'est pas isolée. Certains motards eux-mêmes reconnaissent l'existence du problème. Patrick Nkosi.
Nous rencontrons des cas pareils. La cliente peut te dire, chauffeur, je veux descendre car je ne supporte pas ce que fait cet homme. Dans ce cas, je fais descendre l'homme et il me paye mon argent.
Pour comprendre ces dérives, les spécialistes évoquent un mélange d'impulsivité, de stress urbain et surtout d'impunité. Médecin Olivier Kadima.
Le phénomène peut s'expliquer entre autres des facteurs psychologiques, psychiatriques, mais tout ceci peut être influencé par un environnement, l'agression est trop minimisé.
Les associations féminines appellent donc à des campagnes de sensibilisation ciblées sur le passager masculin qui utilise les motos à Kinshasa.
Actualité internationale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli ce lundi par son homologue français Emmanuel Macron au palais présidentiel de l'Élysée pour faire le point sur les intenses négociations en cours pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette nouvelle visite en France, la 10e depuis les débuts de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, intervient au lendemain des discussions entre délégations américaines et ukrainiennes en Floride à la veille d'une rencontre à Moscou entre les de Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.
L'invité.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se rend à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a indiqué que ce déplacement du pays de l'oncle Sam témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est du pays. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs rwandais. Suivez Patrick Muyaya Katembwe dans cet entretien avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour monsieur Ndongala.
Le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord de Washington, mais sur les terrains des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa?
Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord faite par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement, notamment en face des différents médiateurs américains, spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington. Nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays.
Par rapport à l'accord d'intégration régionale, comment comprenez-vous la phrase du chef de l'État, je cite, ils nous ont poignardé dans les dos en 2022?
Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé arrivait aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise le barrière ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc, c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui s'est manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici, je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour d'intégration économique d'autre part. Et nous, nous avons dit dans les documents finaux qui a été paraffé par nos équipes et qui créent ces cadres d'intégration économique régionale que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie que lorsque la paix sera restaurée et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23.
À quelques heures de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs de l'État, monsieur les ministres, avez-vous un message à lancer à la population de l'Est en particulier et puis à toute la population congolaise en général?
Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que, rapidement, le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira qui, lui, à son tour, suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs que quotidien, nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington, c'est fait dans le strict objectif de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne congolais Téléma, entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix.
Messieurs les ministres, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Lievin Mbuinga. Alain Goy était à la technique, Jocelyne Moussaou à la présentation. Merci de nous avoir suivis et merci de réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.